Chapitre 1. Ce sont des menaces de mort. Samson O'Brien regarda l'écran du téléphone qu'on lui tendait par-dessus son bureau et haussa les épaules. C'est possible. Ou alors vous vous faites juste troller sur les réseaux sociaux, ce qui arrive tout le temps et ne veut généralement rien dire. Un haussement de sourcils aussi parlant qu'un roman paracheva l'étonnement parfaitement joué, inscrit sur le visage aux pommettes ciselées qui lui faisait face. « J'aimerais bien partager votre désinvolture, mais vous êtes habitué au danger, vous. Tandis que moi, le plus dangereux qui risque de m'arriver, c'est que quelqu'un me tende une paire de ciseaux la pointe en avant. » Cette déclaration s'accompagna d'un sourire d'autodérision, ainsi que d'un regard brun pétillant dans un visage angélique encadré de boucles au burn. Et Samson se demanda soudain pourquoi l'homme assis en face de lui dans son bureau au rez-de-chaussée de l'agence de recherche des Vallons lui inspirait une telle antipathie. Certes, le visiteur était vêtu d'une tenue tape à l'œil, pantalon de survêtement à bandes et doudoune coordonnée, le tout en velours côtelé et orné d'un motif floral criard à vous donner la migraine. Sans parler des baskets vert fluo qui complétaient la panoplie. Enfin, Samson ne connaissait rien à la mode et s'estimait mal placé pour juger quelqu'un sur ses goûts vestimentaires. D'autant plus quand ce quelqu'un gagnait sa vie en taillant des fringues pour les gens en vue, grâce à quoi c'était aujourd'hui un célèbre animateur d'émissions de télé-réalité. Tyke. Un homme si célèbre qu'on ne l'appelait que par son prénom comme un footballeur brésilien. La coqueluche de la Press People. Un fidèle des tapis rouges de toutes sortes, toujours flanqué de beautés diverses et variées à ses bras, et animateur des Neuf, l'une des émissions les plus populaires de la télévision britannique. Il en avait fait du chemin, le garçon godiche qui passait ses vacances d'été chez ses parents à Broncliff et répondait alors au nom de Jake Ramsbottom. Dès que Samson était arrivé dans l'immeuble de Backstreet, et Kaïda lui avait chuchoté extatique qu'un client très important l'attendait, il avait senti qu'il se passait quelque chose. Il en fallait beaucoup pour impressionner Aida Capstick. Et quand il avait vu les quatre occupants du bureau du bas en train de siroter leur thé dans les tasses les plus fines, sur les soucoupes en porcelaine de Chine assorties, accompagnées de tranches de cake aux fruits, il avait mesuré à quel point Aida était fascinée par cette icône de la télévision. Normalement, des tasses dépareillées faisaient l'affaire, avec quelques biscuits s'ils avaient de la chance. Mais la vénération d'Aida ne suffit pas à faire changer d'avis Samson. Il secoua la tête. « Je suis désolé, Monsieur Ramsbottom. »« Tyke ! Appelez-moi Tyke !» rectifia aimablement le personnage en reportant son attention sur la silhouette d'une immobilité surnaturelle assise à côté de Samson. « Tout le monde m'appelle comme ça !» Delilah laissa échapper une brève inspiration. Rien de plus. Elle aurait aussi bien pu être changée en statue de sel, telle une femme de Lot des temps modernes. Perchée sur le bord de sa chaise, elle ne parvenait pas à détacher son regard du visage de Tyke et aucune interjection ne franchissait ses lèvres. En vérité, depuis qu'elle était entrée dans le bureau aux côtés de Samson et qu'on lui avait présenté leur invité, elle n'avait pas prononcé un mot. Ce qui, quand on la connaissait, constituait un miracle de proportion biblique. Elle était médusée, tout comme Calimero. D'habitude, son braque de Weimar ne se montrait pas aussi amical envers les nouveaux venus. Mais dès qu'il avait aperçu l'homme assis sur l'une des chaises réservées aux clients, il s'était précipité sur lui. Sa grosse tête grise reposait actuellement sur les genoux d'Udi Tyke, qui lui gratouillait les oreilles, et le chien affichait l'équivalent canin d'une expression extatique. Dans un moment de sincérité mortifiante vis-à-vis de lui-même, Samson s'avoua qu'il était jaloux. Jaloux de la facilité avec laquelle le personnage avait détourné à son profit l'affection de Delilah et de Calimero. Normalement, de telles démonstrations d'affection lui étaient exclusivement réservées. Il reconnaissait aussi que c'était la raison pour laquelle il était si réticent à proposer les services de l'agence de recherche à ce dieu vivant. Cet honnête examen de conscience n'infléchit pas sa décision. « Je suis désolé. mais nous sommes totalement débordés en ce moment. Je ne vois pas comment nous pourrions accepter de nouveaux clients, ajouta-t-il. S'il vous plaît, fit Tyke en se penchant en avant, les mains sur le bureau, les doigts écartés, reportant toute son attention sur Samson, comme s'il était conscient que son associé était hors d'état d'offrir une conversation cohérente. Je vous en prie, j'ai besoin de votre aide. J'ai les nerfs en vrac depuis que je reçois ces menaces. Je vous en supplie. Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas. La réponse de Samson fut interrompue par deux coups de pied simultanés dans ses tibias, le premier de Delilah et le deuxième de leur client potentiel quand il se leva d'un bond. « Si c'est une question d'argent !» tenta d'argumenter Tyke, les bras en croix, offrant à Samson une vue complète de l'extraordinaire création vestimentaire qu'il portait. « Je paierai tout ce que vous demanderez. Héloïse, tu as le cash ?» Il adressait cette question à la femme assise à côté de lui. Grande, un physique juvénile souligné par une coupe de cheveux pixie. Elle leur avait été présentée comme l'assistante de Tyke et était restée aussi muette que Delilah tout au long de la réunion. Ce n'était pas la seule chose qui en faisait la plus discrète des deux visiteurs. Son jean, ses Converse All Stars noirs, sa veste de surplus militaire kaki et son t-shirt noir étaient d'une sobriété exemplaire face à la tenue de son flamboyant boss. Elle prit dans la sacoche posée sur ses genoux une épaisse liasse de billets qu'elle posa sur la table. Des billets de 50 livres, s'ils étaient tous comme celui du dessus. Delilah laissa échapper un hoquet audible. « Votre prix sera le mien !» poursuivit Tyke, qui affichait maintenant une mine consternée. « Je dois organiser le défilé pour ma dernière collection et je ne veux pas regarder par-dessus mon épaule en permanence, de peur que quelqu'un essaie d'attenter à ma personne. » Si cet étalage ostentatoire de richesse eut un effet sur Samson, il ne fit que renforcer son obstination. Il secoua la tête. Cela ne change rien. Nous ne sommes pas équipés pour assurer la sécurité dans un cas avéré de menace de mort, dit-il en insistant sur le mot avéré. Je vous suggère de vous adresser à l'une des nombreuses sociétés qui proposent ce genre de service ou à la police. Il repoussa l'argent sur le bureau en direction d'une Héloïse toujours aussi silencieuse et se leva, notant avec satisfaction l'air surpris de Tyke. De toute évidence, il n'était pas habitué à essuyer des refus. Samson se dirigea vers la porte. Il la tint ouverte en regardant Tyke remettre sa casquette de baseball, adresser un sourire chagriné à Delilah et quitter la pièce, Héloïse remettant le fric dans son sac avant de lui emboîter le pas dans le couloir. Une fois la porte d'entrée refermée derrière eux, Samson se retourna pour faire face à sa partenaire. Delilah Metcalf se tenait debout près du bureau, visiblement fumasse, et Aida Capstick, qui descendait l'escalier, affichait la même mine furibarde. Pris dans le tir croisé de leur mécontentement, Samson se demanda s'il avait été sage de laisser ses émotions prendre le pas sur la réalité du monde des affaires. Samson n'était pas seul à être le jouet de ses émotions. À l'autre bout de la ville, Artie Robinson se sentait d'humeur assassine. C'était un sentiment dont il n'était pas coutumier, le bookmaker à la retraite étant plus naturellement enclin à la magnanimité et sachant savourer la compagnie de son prochain. Mais pas ce jour-là. Avec le soleil de ce tout début d'été qui filtrait par les hautes fenêtres du grand salon et emplissait d'une joie commune les résidents de la maison de retraite de Fellside Court, Artie savait que ses sombres pensées étaient en décalage avec celles de ses amis et voisins. Et tout cela à cause de ce bâtard.
Je donnerais cher pour savoir à quoi tu penses.
Joseph O'Brien s'était penché sur son accoudoir pour murmurer à l'oreille de son ami.
Désolé,
s'excusa Artie en secouant la tête et en se fabriquant un sourire.
J'étais à des kilomètres d'ici.
Tu veux dire que tu n'étais pas suspendu à chacune de ces paroles ? Il faut reconnaître qu'il est doué pour ça. C'est un amuseur-né.
Joseph jeta un coup d'œil vers l'autre bout du salon où un homme tenait sa cour, assis sur un haut tabouret placé là pour l'occasion. Tous les canapés et fauteuils de la grande pièce étaient occupés, et toutes les têtes tournées vers lui. La mine captivée autant que ravie, ses récits drôlatiques sur sa vie dans un monde de paillettes dont il ne pouvait que rêver, suscitant de nombreux rires.
« Amuseur né, mais fesse oui !»
marmonna Artie, trahissant ses sentiments.